have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en votre compagnie. Ce soir, dans l'Amérique et vous, le point sur les élections de mi-mandat ici aux États-Unis. À mi-parcours du mandat du président Donald Trump, ce scrutin du 6 novembre vise à renouveler 33 sénateurs sur 100 et l'ensemble de 435 sièges de la Chambre des représentants, ainsi que quelques postes de gouverneur d'État. Quels sont les enjeux dans un pays divisé et une campagne très polarisée? Les républicains vont-ils conserver leur majorité au Congrès et quelles sont les chances des démocrates? Nous attendons vos questions. Pour participer, appelez le 001 202 205 26 33. Et pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Nos experts ce soir, ce sont, donc on a pour l'instant Emilio Viano, qui est professeur de sciences politiques à American University. Bonsoir Emilio Viano.
Bonsoir.
Alors, on va d'abord, si vous le voulez bien, planter le décor pour nos auditeurs en Afrique qui ne connaissent pas forcément le système électoral américain. Qu'est-ce que les midterms ou les élections de mi-mandat?
C'est une élection généralement, comme dans ce cas, deux ans après l'inauguration du président courant. Et c'est pour changer la Chambre des députés et certains sénateurs, pas tous. Et c'est une façon de, si vous voulez, rappeler que le monde de la politique change toujours. Et c'est même dans la Constitution, parce que la Chambre des députés doit être élue chaque deux ans. Ainsi que c'est obligatoire que la Chambre des députés et des quelques sénateurs selon la date de l'élection.
Alors, en quoi est-ce que ces élections sont importantes?
Jusqu'ici, il y a eu des élections de mi-mandat qui étaient rarement décisives, mais il y en a eu qui ont provoqué un renversement de majorité. Par exemple, en 1994, le race de marée républicaine avait surtout anéanti les résistances des démocrates à la politique pénale répressive et à la stratégie commercial libre-échangiste de leur président. Et plus récemment, en 2010, la percée conservatrice du Tea Party, réalisée Barack Obama, à un moment où son slogan de campagne « Oui, nous devons » n'était déjà plus qu'un souvenir, on peut dire, amer d'une occasion perdue. Et le scrutin du 6 novembre prochain marquera en revanche une nouvelle étape de la polarisation politique des États-Unis. C'est presque un tourbillon qui a accru depuis deux ans de la déstabilisation de l'ordre international. Car le vote va déterminer le destin de l'occupant de la Maison-Blanche. Bien décidé à se représenter en 2020, Trump, acceptant chacun de deux camps, croirait qu'il leur a mangé le cerveau. De l'autre côté, ses adversaires l'accusent d'être un traître, cherchant à saper l'Alliance Atlantique, les valeurs démocratiques de l'Occident. Il réplique naturellement que ces accusateurs sont les auxiliaires d'un camp d'Amérique centrale, MS-13, qui sème la terreur aux États-Unis, même ici à Washington. Et on peut dire que, amplifié par les réseaux sociaux et les médias, ces buffets de paranoïa sont presque devenus musique d'ambiance. Qui ne marque plus aucune interruption post-électorale. Ainsi que la chose, le pire, c'est que les deux partis ont cessé de s'accorder sur les règles du jeu de leur fonctionnement. Et que c'est cette démocratie américaine dont ils était tellement fier, naturellement, ici, qu'il a présenté un modèle à la planète entière. On l'a vu récemment avec la confirmation d'un juge de la Cour suprême, Kavanaugh, où il y a eu une lutte farouche entre les démocrates et les républicains.
Alors, on va accueillir un autre invité qui nous rejoint en cours de route. Il s'agit de Jean-Germain Gros de l'Université du Missouri. Bonsoir Jean-Germain.
Oui, bonsoir.
Alors, ces élections, elles sont parfois décrites comme un référendum sur la politique du président. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui, tout à fait. Le président Donald Trump en a fait sa cause. Il a clairement indiqué que ces élections sont en grande partie un référendum sur son administration, concernant son administration. Donc c'est le président lui-même qui a en quelque sorte décidé que ces élections sont une sorte de référendum pour son administration.
Je vous écoute, allez-y.
Oui, alors ça va être des élections très contestées. D'un côté, le président Donald Trump est une personnalité qui polarise, n'est-ce pas? La lutte entre les démocrates et les républicains s'avère une lutte presque tribale, n'est-ce pas? Mais il y a l'économie qui fonctionne relativement bien. Donc c'est là un atout que, sur lequel le président Trump pourra certainement jouer. Mais il ne faut pas sous-estimer qu'il existe une forte résistance au président Trump à cause de sa personnalité, à cause de ses propos incendiaires. Donc ça va être une élection ou une année électorale très intéressante.
Alors, Emilio Viano, les Républicains contrôlent en ce moment le Congrès avec une courte majorité au Sénat, 51 contre 49, et plus confortablement à la Chambre, 236 contre 193. Quelles sont les chances des Républicains ?
Selon les démocrates, jusqu'à maintenant, il semble qu'ils ne sont pas prêts plus la Chambre des députés. Mais on dit que dans ce moment, en raison de la campagne très active de Trump, qui voyage presque chaque jour pour une rencontre dans un état d'hiver, particulièrement où les républicains ont des problèmes, où il y a sa base qu'il veut motiver à voter et continuer à le soutenir, les deux partis se rapprochent. Ainsi que vraiment, ça pourrait fonctionner pour les démocrates, mais on ne sait pas. Par exemple, il y a cette caravane d'immigrants du Guatemala qui est en train d'arriver aux États-Unis. Ça pourrait vraiment donner plus d'énergie à la base républicaine parce que, naturellement, Trump décrit cette gens comme des criminels, membres de gang de pays de l'Amérique centrale, même des terroristes du Moyen-Orient, et qu'ils doivent être naturellement arrêtés à la frontière. Il va mobiliser, on a déjà mobilisé 800 militaires américains pour les empêcher d'entrer. Et ça, c'est naturellement quelque chose qui va vraiment donner beaucoup d'énergie à ceux qui ont déjà voté pour Trump. Ainsi qu'on ne sait pas, on pensait que peut-être dans les élections de mi-terme, normalement, ceux qui ont voté pour le gagnant se sent bien. Ils disent nous avons la Maison Blanche, maintenant on a le Congrès, il n'y a pas besoin de se préoccuper. Mais cette année, premièrement avec la bataille sur la confirmation du juge Kavanaugh pour la Cour suprême, maintenant avec cette caravane des immigrants qui seraient illégaux et d'autres choses qui se passent dans le pays, il n'est pas tant sûr que les républicains n'iront pas à voter et à voter en masse. Et s'ils le font, ne sera pas si facile pour les démocrates, parce qu'il y a aussi des congressistes et démocrates, soit députés que sénateurs, qu'ils sont dans des États qui ont voté pour Trump. Et ils ont de grandes difficultés à être reconfirmés, et ça, c'est peut-être le point débile des démocrates. Naturellement, les démocrates espèrent de vaincre la bataille, et naturellement, si leur parti redevient majoritaire au Congrès, au moins à la Chambre des députés, ils seront naturellement tentés de multiplier les commissions d'enquête, d'engager une procédure même pour la destitution contre le président. Et ça a aussi été exploité par le président. Une telle perspective fortifie la colère des partisans de M. Trump, toujours nombreux, ardents, volontiers, disposés à se croire persécutés. Et selon eux, alors même que le bilan économique de leur héros est flatteur, les médias, les élites intellectuelles, l'État profond, s'acharnent à l'empêcher de gouverner. Ainsi que s'il y aurait une défaite en novembre, les encouragerait à croire de l'autre côté que cette cabale, la fraude électorale, les votes d'immigrés clandestins sont la cause de leur déboire. Ainsi que c'est vraiment une situation très dramatique pour les États-Unis, puisque toutes ces théories de conspiration sont très répandues entre les républicains.
Jean-Germain Gros, qu'en dites-vous? Le président pourrait-il perdre sa majorité?
Bon, pour le moment, personne ne sait. Personne ne sait. Il y a trop de facteurs inconnus. Donc, je ne peux pas vraiment prédire ce qui va se passer. Il y a une chance quand même pour les démocrates de devenir majoritaires à la Chambre des députés. Je crois que cette chance est beaucoup moins... la situation est beaucoup moins prometteuse au Sénat. Mais à la vérité, personne ne sait. Car il y a aussi le vote des indépendants. Mm-hmm. Il y a aussi les femmes qui habitent dans les banlieues et qui ne sont pas forcément des fanatiques, des fans du président Trump. Donc les indépendants sont un facteur très important dans la politique américaine. On parle de la caravane qui vient de l'Amérique centrale, de M13. Je crois qu'il ne faut pas exagérer l'influence de ces forces-là. En fait, si on veut être prudent, je crois qu'on doit tout simplement attendre le 7 novembre, c'est-à-dire le lendemain après les élections, pour faire vraiment une analyse de ce qui s'est passé. Il y a trop de facteurs inconnus sur l'échiquier politique américain.
Mm-hmm. Justement, hein, peut-être Emilio Viano, une petite réaction sur le vote des femmes. Quelle pourrait être l'importance de cet électorat sur ces élections?
Oui, c'est très important vraiment. On pense, particulièrement les démocrates. Il espère que ça sera un changement dans l'opinion de bien des femmes aux États-Unis, particulièrement de maintes raisons. La plus importante, pour certaines, c'est toute la bataille sur la confirmation de ce juge Kavanaugh, qui a été accusé dans sa jeunesse des violences sexuelles contre une femme particulièrement, mais aussi contre d'autres. Et il y a eu naturellement un drama pendant sa confirmation. Et on peut dire que bien des républicains et même les présidents, ils n'ont pas démontré une compréhension pure de ce qui se passe avec une victime d'un attaque sexuelle. Ils n'ont pas démontré beaucoup de sympathie pour elle en général. Ils voulaient cet homme parce que c'était convenient de le faire en pratique dans ce moment. Il y en avait d'autres, il y avait même des femmes qui étaient des excellents candidats, mais ils l'ont poussé pour cet homme qui a été confirmé avec une marge de victoire très très étroite, 50-48. Et ça, naturellement, a reçu beaucoup de femmes qui avaient déjà commencé un mouvement qui s'appelle Me Too, moi aussi, et qui se réfère à toutes les victimes de violences sexuelles, d'harcèlement sexuel, dans l'emploi, dans la carrière, dans son travail, dans ses études. Et cet mouvement, on espère, il va peut-être changer l'opinion de bien des femmes, particulièrement blanches, qui ont voté pour Trump. Naturellement, on verra si ça passe. Il y a d'autres raisons que les femmes de ne pas voter pour Trump, et c'est naturellement les efforts des républicains de nullifier complètement le système de garantie de salut, de soins de salut. Ce n'est pas un système d'assurance au niveau gouvernemental pour tout le monde, pour les urgences médicales. Et les républicains ont essayé de le nullifier. Ils ne sont pas réussis à cause du vote du sénateur McCain, mais ils continuent à le faire. Et on parle déjà maintenant nouvellement de limiter, par exemple, le fait que cette loi ne permet pas à une compagnie d'assurance de ne pas donner l'assurance à une personne en raison d'une condition préalable, et que c'est très, très, très important. Et les femmes, naturellement, ils payent beaucoup d'attention sur ça, parce que pour elle-même, mais aussi pour la famille, et il y a beaucoup d'attention sur ça. Je crois qu'il y a une grande probabilité que cette fois, il y aura une majorité de femmes votant pour les démocrates. Mais comme a dit le collègue de Missouri, on doit attendre parce qu'il est si étroit le marge de différence que c'est très difficile vraiment de prévoir quel sera le résultat.
Ouais. Alors, on va prendre un auditeur. Au téléphone, on a Alphonse Mbouaki qui est en RDC. Bonsoir Alphonse.
Bonsoir madame.
Alors vous avez peut-être un commentaire, une question, on vous écoute.
Des questions à poser à vos experts.
Oui.
Mais tout est déjà dit, hein. Tout est déjà répondu. Je voudrais seulement savoir si à cause de sa maladresse dans la politique interne, l'adresse de Donald Trump concernant par exemple la confirmation de la nomination du juge Brett Kavanaugh dont la conduite sexuelle a été critiquée, cela peut avoir un impact sur les élections du mandat. Non seulement cela, mais également il y a encore le problème de l'immigration où il a séparé les enfants de leurs parents, cela a provoqué un pays aux États-Unis. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur, en faveur des démocrates donc, pendant les élections du mandat? Et également au niveau extérieur, il y a beaucoup de failles de la part de la politique extérieure menée par Donald Trump. Par exemple, il est sorti de l'accord nucléaire avec l'Iran. Il y a encore cette guerre commerciale avec ses alliés, les Occidentaux, les Européens. Le problème de Jérusalem, il a proclamé Jérusalem comme étant la seule capitale d'Israël. Il est sorti de l'accord du traité de la COP 21 sur le climat. Est-ce que tout cela peut avoir des effets c'est là qu'il peut basculer en faveur de la majorité présidentielle. C'est à vous, deux intervenants, vos deux experts, que je lance ces questions, que je pose ces questions.
D'accord, alors c'est une grande question, hein. On va peut-être la poser à Jean-Germain Gros, même si vous avez dit que vous ne vous sentez pas quand même de donner des pronostics. Mais enfin, là, notre auditeur mentionne la confirmation de Cavano, la question de l'immigration avec la séparation des enfants et la politique internationale. Ces points-là ont-ils un impact important sur le vote des Américains aujourd'hui?
Bon, justement, tous ces points peuvent avoir une influence sur les élections. Je n'en doute pas. Mais vous savez que l'ancien speaker de la Chambre des représentants, M. Tip O'Neill, avait un proverbe, je crois qu'il reste toujours valable. Il disait que toutes les élections sont locales. toutes les élections sont décidées par les facteurs locaux. Je pense que les élections de 2018 ne seront pas une exception, bien que M. Trump a essayé, disons, de nationaliser ces élections, et avec un certain succès. Mais je crois que quand les Américains iront aux urnes, les facteurs qui joueront un rôle prédominant dans leurs décisions, ce seront les facteurs locaux tels que la santé et d'autres facteurs. Je ne pense pas forcément que la politique internationale aura une influence, une très grande influence sur leurs décisions. Ouais. Je suis quand même désolé parce que je suis un nationaliste, un internationaliste, pour ne pas dire un globaliste, mais cependant, les Américains votent toujours leur poche, c'est-à-dire ils votent toujours les facteurs locaux, santé, conditions économiques, sécurité, et ça. Je ne pense pas que la politique internationale aura un rôle prédominant. Et peut-être que ça doit être le cas, mais ce ne sera pas le cas.
Alors, il nous reste à peu près 2 minutes. J'ai une question qui est quand même assez importante. Je vais me tourner vers Emilio Viano. Des observateurs estiment qu'une victoire des démocrates pourrait avoir des implications pour le président, notamment les accusations de collusion avec la Russie. Quel est votre point de vue à ce sujet?
Ah oui, naturellement. Il y a bien de soupçons, n'est-ce pas, contre le monsieur Trump, de point de vue privé, parce qu'on ne connaît vraiment pas ses intérêts financiers. Par exemple, on ne connaît pas ses déclarations de vente pour l'État, ainsi qu'on ne sait pas où sont ses intérêts qui peuvent avoir d'influence sur la politique étrangère. Et il y a aussi, naturellement, ceux qui le considèrent un caniche de Poutine, qui doit sa victoire à un mode de scrutin biaisé en leur défaveur des démocrates, ce qui n'est pas faux, et aux fake news concoctées par Moscou. Si leur parti redevient majoritaire, on peut bien penser qu'il y aura bien des investigations d'enquête contre Trump, et finalement on pourra peut-être savoir sa situation financière et même commencer une procédure de destitution contre le président, ce qui clairement aurait naturellement un autre effet de division très très profonde aux États-Unis. On peut aussi dire qu'il y a un point de rencontre entre les républicains et les démocrates, c'est que deux électeurs sur trois aux États-Unis sont convaincus que le système est truqué en défaveur de l'Américaine moyenne. Républicains et démocrates s'accordent au moins sur ce point et ils ont raison de le croire, puisque l'oligarchie est le régime commun.
Merci, et ce seront les mots de la fin. Hein. Je vous remercie pour vos analyses. Merci à tous les auditeurs. À la production, on avait Michel Joseph et Sims Loumani. Morgane Guerriec au micro. À bientôt.